Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditrices et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. L'Indonésie montrera la grandeur maritime et la diversité au festival Europalia. La conférence mondiale de travail de PWI concentrée sur l'amélioration de l'organisation. La journée nationale de la presse est le moment pour soutenir le développement régional. Le ministère des Affaires étrangères a promu l'Indonésie aux hommes d'affaires sud-africains. Le tourisme maritime pourrait contribuer 4 milliards de dollars américains. Charami nous présente maintenant le journal complet. L'Indonésie a reçu l'honneur d'être le pays invité au festival Europalia tenu en Belgique et des pays voisins. L'Indonésie est le premier pays d'Asie du Sud-Est qui est désigné comme un pays invité dans ce festival biennal. À le long d'octobre 2017 jusqu'en janvier 2018, le Festival des Arts de l'Indonésie Europalia présentera la richesse de la culture indonésienne, la représentation culturelle et les expositions culturelles dans le domaine de la gastronomie, du cinéma et de la littérature. Le coordinateur général Europalia de l'Indonésie, M. Makarim Wibisono, a déclaré à RRI le mardi 7 février, que l'élection de l'Indonésie devient un pays invité au festival qui était organisé depuis 1969 est une excellente occasion. Ce festival peut augmenter le nombre de visites des touristes européens en Indonésie jusqu'à plus de 1 million de touristes. Le 26e festival Europalia présentera l'Indonésie en trois grandes expositions, telles que l'Indonésie en tant que pays archipélagique avec la biodiversité, les œuvres d'un centre et la diversité des communautés qui vivent dans la tolérance.
Ocean of Becoming, ya, bagaimana negara kepulauan kita ini yang terbesar di dunia ini menjadi suatu entitas yang berkembang, gitu ya.
En substance, il est l'océan de devenir. Comment notre nation insulaire est le mode dans une entité qui se développe à travers trois modèles, à savoir la biodiversité. Nous sommes un archipel avec une biodiversité exceptionnelle. Ainsi, l'exposition maritime dans la Beauvais à l'IS Musée. En outre, la grandeur de l'Indonésie a obtenu l'inspiration plutôt que les politiques de nos pères. Par conséquent, il y a l'exposition en centrale. En troisième, le moment pour l'Indonésie à partager à d'autres pays au sujet de la diversité de l'Indonésie. Et la tolérance, le pluralisme, la coexistence mutuelle peut être faite successivement à partir de 1945. Selon M. Makarim Wibisono, la société Bells est un fan de la bande dessinée. Par conséquent, l'Indonésie présentera la bande dessinée indonésienne, entre autres la bande dessinée traditionnelle comme Mahabharata et le Ramayana, et aussi les dernières bandes dessinées. Jusqu'à présent, on a déjà préparé 225 danseurs, 54 spectacles de danse et 16 types de danse. 25 groupes musicaux constitués de 172 personnes et 76 représentations musicales. un autre il y aura des spectacles de théâtre et projections de films. Le festival Europalia sera ouvert par le président Joko Widodo et le roi Philippe à Bruxelles le 10 octobre 2017. La conférence nationale de travail de l'Association des journalistes indonésiens, ou PWI, mardi à Ambon, les Moluques, se concentrait sur l'amélioration de la réglementation de PWI. La conférence nationale de travail de PWI est tenue dans le cadre de la Journée nationale de la presse 2017. Le secrétaire général de PWI, M. Henry Bangun, a déclaré dans son discours que certains efforts d'amélioration étaient, entre autres, les tentatives d'élaboration de l'article de l'association et le règlement de PWI. La forme devrait être ratifiée lors du prochain congrès de PWI en 2018. Outre la formulation de l'article de l'association et des statuts, la Conférence nationale de travail de PWI mettra également l'accent sur l'amélioration de l'éthique journalistique. Selon Henry, c'est nécessaire pour répondre aux défis du développement de la civilisation et le développement des conditions sociales dans la communauté. Certaines améliorations apportées dans l'article de base et le règlement destiné à l'organisation de PWI peuvent anticiper les développements qui se sont produits depuis l'adoption de l'article de l'association et des statuts au congrès de Banjarmasin il y a 4 ans. En plus de l'article de l'association et les statuts, nous avons voulu améliorer le code d'éthique journalistique qui a développé parce qu'il y a des liens à la télévision en direct, comme le cas à Jakarta il y a quelque temps. Henry Bangun a déclaré qu'à la Conférence nationale de travail, ils discuteront du développement de nouveaux médias qui sont actuellement répandus dans diverses régions en Indonésie. Selon lui, cela est causé par le développement des nouveaux médias n'est pas couvert actuellement dans le règlement du code de conduite PWI qui existe déjà. Selon Henry Bangun, la Conférence nationale de travail est aussi serait capable de générer de l'amélioration dans un test de compétences des journalistes. Il a souligné l'importance d'incorporer le test du code de conduite dans le test de compétences des journalistes en Indonésie. Le président de l'Association des journalistes indonésiens, M. Margiono, a déclaré mardi à Ambon, les Moluques, que la Journée nationale de la presse était un moment important pour aider les régions en Indonésie à résoudre les problèmes qui existent dans chaque région. La mise en œuvre de la 69e Journée nationale de la presse à Ambon est le bon moment pour encourager la construction et le développement au Moluques. Selon M. Margiono, la commémoration de la Journée nationale de la presse est toujours effectuée en construisant des collaborations avec divers partis pour apporter des innovations qui sont bénéfiques pour le progrès des Moluques. Nous apportons le programme du gouvernement pour résoudre les problèmes régionaux, comme par exemple dans les Moluques. Quel problème aux Moluques? Comme par exemple les relations entre les îles. Nous apportons le ministère des Transports. Il veut réaliser l'autoroute de la mer inter-île, donner le bus, puis donner une assistance sous forme de navire transversant, ferry entre les îles, donner des guillettes de sauvetage par la pêche. Il y a aussi d'autres ministères. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales a porté la lumière du soleil pour la région qui n'a pas d'électricité. Certains ministères qui étaient présents dans la Journée nationale de la presse 2017, entre autres le ministère des Transports, le ministère du Tourisme, le ministère des Communications et Informatiques, le ministère de la Recherche et de la Technologie et de l'Enseignement supérieur, y compris des entreprises d'État en Indonésie. Margiono espère que la présence de la presse sera en mesure de combler les communautés dans les régions avec le gouvernement central afin de soutenir les programmes nationaux de développement dans la région. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, au sein de sa visite de travail à Cape Town, en Afrique du Sud, a promu le potentiel économique de l'Indonésie aux hommes d'affaires sud-africains. C'est ce qu'a affirmé la ministre Retno Marsudi, tout en donnant un discours lors du Forum des Affaires indonésiennes Afrique du Sud. La ministre Retno a déclaré aux hommes d'affaires sud-africains sur la réforme économique qui est en train d'être faite par le gouvernement indonésien. À cette fin, la ministre Retno a invité les hommes d'affaires sud-africains à venir commercer et investir en Indonésie, et plutôt le directeur de l'Afrique de la Direction générale pour l'Asie-Pacifique, Afrique, du ministère des Affaires étrangères, M. Daniel Tumpal Simanjuntak, a déclaré que le gouvernement indonésien en 2017 prioriserait la coopération avec les pays de la région africaine. Afin d'améliorer la coopération entre l'Indonésie et l'Afrique, la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a visité Cape Town en Afrique du Sud le 6 et 7 février et rencontré le ministre des Affaires étrangères et le président de l'Afrique du Sud. Le ministre Retno continue également sa visite bilatérale au Mozambique le 7 et 8 février. Il a visité l'Afrique du Sud en apportant des représentants de certaines entreprises appartenant à l'État, ainsi que des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie, ou CADIN, de l'Indonésie. Le tourisme maritime devrait contribuer à 4 milliards de dollars américains en 2019, soit une augmentation jusqu'à 4 fois de la contribution qui existe à l'heure actuelle. Cela a été déclaré par le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, dans la signature de la coopération du développement du tourisme maritime entre le ministère des Affaires étrangères, maritimes et de la pêche avec le ministère du Tourisme à Jakarta, mardi. Il a dit que le tourisme maritime contribue actuellement seulement environ 10% du tourisme national qui atteint 10 milliards de dollars américains par an. Ainsi, la contribution du tourisme maritime est seulement d'environ 1 milliard de dollars américains. Arif Yahya a déclaré la question dans ce sous-secteur se concentrer sur la réglementation, les ressources humaines et l'approche priorisant la sécurité. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé Les relations américaines avec les pays de l'Europe Ouest. Les relations américaines avec les pays d'Europe occidentale d'aujourd'hui sont commencées par une controverse. Quelques jours après Donald Trump effectue des tâches à la Maison-Blanche, il y avait beaucoup de commentaires des dirigeants et la réaction du public à certains pays et au Royaume-Uni, comme par exemple plus de 1,8 million de personnes ont signé une pétition demandant des ministres d'annuler la visite de Trump. Le rejet se produit également dans la Chambre des communes du Royaume-Uni lorsque le président de la Chambre des communes britannique, John Bercow, a déclaré que son opposition au plan de la visite du président américain Donald Trump en Grande-Bretagne cette année et fait un discours à la Chambre des communes. John Bercow s'est fermement opposé ce mardi à l'invitation de Trump après qu'il soit décidé formellement d'interdire temporairement les migrants de sept pays à majorité musulmane aux États-Unis. Son opposition est considérée que le Royaume-Uni refuse le racisme et soutient l'égalité humaine devant la loi. De vives critiques contre le nouveau président des États-Unis est également venue de l'Union européenne. Guy Verhofstadt de l'Union européenne a déclaré que Donald Trump était l'une des trois menaces qui présentent sur l'Union européenne. Deux autres menaces sont le président russe Vladimir Poutine et la politique de l'islam radical. Selon le chef de la délégation de l'Union européenne dans les négociations sur le retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, Trump, en coopération avec l'extrême droite en Europe, pour concevoir l'affrontement de l'Union européenne. La déclaration concernant Donald Trump est causée, entre autres, par la décision du président américain au début de son règne qui repousse temporairement le réfugié et les migrants en provenance de 7 pays à majorité musulmane aux États-Unis. L'Europe et le monde commencent à connaître un nouveau modèle de communication et la nouvelle politique de la Maison-Blanche sous la direction de Donald Trump. Il faut être vu la condition de Donald Trump ajustera ses politiques ou d'autres pays qui doivent comprendre le style du nouveau chef des États-Unis. Dans la diplomatie, le style est le mode de communication basé sur l'effort de comprendre les uns les autres, mais bien sûr pour maintenir la position et l'intérêt du peuple et de l'État respectivement. Est-ce que le style de la diplomatie et le modèle de la nouvelle politique du président des États-Unis changera l'ordre des relations mondiales? Il faut attendre. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec la ville de Banjarmasin qui a été brûlée à la terre. Après la défaite des Alliés dans la Seconde Guerre mondiale, le Japon est entré à Kalimantan du Sud le 6 février 1942. Le 8 février 1942, trois navires hollandais sont entrés à Banjarmasin pour transporter tous les Néerlandais qui ont été évacués vers l'île de Java. Les Pays-Bas exécutent une politique de la terre brûlée en établissant des forces spéciales destroyées nommées Algemeen Vernieling Corps. Son but est que le bâtiment et les installations existantes à Banjarmasin ne sont pas utilisées par les Japonais. Banjarmasin devient le lac de feu par des explosions de dynamite. Les émeutes ne peuvent pas être évitées à cette époque. Les entrepôts, les maisons, les magasins et les bureaux des Pays-Bas sont pillés. Notre information est sur le bombardement de Sayed Sidi Youssef, 8 février 1958. En fin de matinée, 11 bombardiers B-25 et 6 chasseurs français bombardent le village tunisien de Sayed Sidi Youssef à la frontière algéro-tunisienne. Le village est détruit. 62 civils sont tués et 130 personnes blessées. Au même moment, un convoi de la Croix-Rouge arrivait à Sayed pour y livrer des vivres. Plusieurs véhicules sont touchés. La communauté internationale est indignée. Le président tunisien Habib Bourguiba exige le retrait des troupes françaises de son pays. Le bombardement de Sayed Sidi Youssef est opéré en guise de représailles car vers 9h du matin, un avion de reconnaissance française a été touché par ALN ou Armée de Libération Nationale Algérienne. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso est un militaire et homme d'État congolais, né le 23 novembre 1943 à Edo. Il a été président de la République populaire du Congo de 1979 à 1992 et est le président en exercice de la République du Congo depuis 1997, date de son retour au pouvoir par les armes après avoir renversé le président élu Pascal Lissouba dans les premiers mois de la guerre civile du Congo-Brazzaville. C'est Réditard, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, encore merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie. Avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons maintenant la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Servidor de auditrice, nous continuons notre programme avec la mise en point sur l'environnement et pour le titre, les contrevenants de la criminalité des animaux sauvages seront accusés en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent. Le gouvernement indonésien s'efforce l'utilisation de la loi sur le blanchiment d'argent pour piéger les délinquants fauniques. Dans ce cas, le ministère de l'Environnement et des Forêts va coopérer avec la police nationale, le procureur général et le Centre de l'analyse des transactions financières, PPATK. Cette action a pour but que la punition pour les braconniers et les commerçants de la faune protégée d'Indonésie pourrait être plus sévère. C'est un point important qui a soulevé à l'atelier sur l'application des lois de la criminalité de flore et de faune sauvage de Sumatra, tenu à Medan les 2 et 3 février 2017. La collaboration entre le ministère de l'Environnement et des Forêts avec l'organisation environnementale au Wildlife Fund Indonesia. Actuellement, le cas de braconnage et de commerce illégal d'espèces sauvages reconnu coupable des plus graves en moyenne 2 ans en prison ou encore en vertu des dispositions de pénalité maximale de la loi numéro 5 de 1990. Cette pénalité ne fournit pas un effet dissuasif pour les auteurs parce que les auteurs qui sont souvent arrêtés sont la même personne et le même réseau. Comme l'a déclaré le secrétaire général de l'application des lois de l'environnement et des forêts, Kemal Amas, dans un communiqué reçu par Gatra News vendredi le 3 février. Selon Kemal, le gouvernement propose une révision de la loi numéro 5 de 1990 sur la biodiversité et ses écosystèmes pour que des sanctions pénales pour les auteurs de crimes de la faune sauvage peuvent être déposées plus de 5 ans de prison et une amende de 100 millions de rupiah. En outre, le gouvernement voit de grandes possibilités d'utiliser la loi sur le blanchiment d'argent qui pourrait piéger les délinquants avec des peines plus sévères. À cette fin, la Direction générale de l'application des lois de l'environnement et des forêts dans cet atelier invite la police, les procureurs et le Centre d'information de l'analyse des transactions financières de formuler des efforts accrus d'application de la loi pour encourager l'utilisation d'un article sur le crime de blanchiment d'argent. Beren Rukur Ginting de PPATK soutient la mise en œuvre du système de lutte contre le blanchiment d'argent dans le cadre du commerce des espèces sauvages en Indonésie. Selon lui, le crime de la faune n'est plus un crime de droit commun, mais est devenu le crime organisé et aussi un crime transactionnel de cross-country. Ces crimes sont souvent trouvés en même temps avec la fraude, la contrefaçon, la violence, la corruption et le blanchiment d'argent. Le résultat des recherches du réseau d'éducation environnementale en 2014 mentionne les pertes d'État causées par le commerce de la faune sauvage ont atteint 9 trillions de dollars américains par an. À l'échelle mondiale, le crime de la faune place le 3e rang sur le commerce illégal après le drogue et le trafic humain. Chers auditeurs, c'était la mise au point sur l'environnement pour ce soir.
L'Indonésie a reçu l'honneur d'être le pays invité au Festival Europalia tenu en Belgique et des pays voisins. L'Indonésie est le premier pays d'Asie du Sud-Est qui est désigné comme un pays invité dans ce festival biennal. Tout à le long d'octobre 2017 jusqu'en janvier 2018, le Festival des Arts de l'Indonésie Europalia présentera la richesse de la culture indonésienne, la représentation culturelle et les expositions culturelles dans le domaine de la gastronomie, du cinéma et de la littérature. Le coordinateur général Europalia de l'Indonésie, M. Makarim Wibisono, a déclaré à RRI le mardi 7 février que l'élection de l'Indonésie devient un pays invité au festival qui était organisé depuis 1969, est une excellente occasion. Ce festival peut augmenter le nombre de la visite des touristes européens en Indonésie jusqu'à plus de 1 million de touristes. Le 26e Festival Europalia présentera l'Indonésie en 3 grandes expositions, telles que l'Indonésie en tant que pays archipélagique avec la biodiversité, les œuvres dans le centre, et la diversité des communautés qui vivent dans la tolérance.
Ocean of Becoming, ya, bagaimana negara kepulauan kita ini yang terbesar di dunia ini menjadi suatu entitas yang berkembang gitu ya.
Ang substans ilelos yang devenir comment notre nation insulaire et le monde dans une entité qui se développe à travers trois modèles, à savoir la biodiversité. Nous sommes un archipel avec une biodiversité exceptionnelle. Ainsi, l'exposition maritime dans la Beauvoirie à l'IS Musée. En outre, la grandeur de l'Indonésie a obtenu l'inspiration plutôt que les politiques de nos pères. Par conséquent, il y a l'exposition en central. En troisième, le moment pour l'Indonésie à partager à d'autres pays au sujet de la diversité de l'Indonésie. Et la tolérance, le pluralisme, la coexistence mutuelle peut être faite successivement à partir de 1945. Selon M. Makari Wibisono, la société Bells est un fan de la bande dessinée. Par conséquent, l'Indonésie présentera la bande dessinée indonésienne, entre autres la bande dessinée traditionnelle comme Mahabharata et le Ramayana, et aussi les dernières bandes dessinées. Jusqu'à présent, on a déjà préparé 225 danseurs, 54 spectacles de danse et 16 types de danse. 25 groupes musicaux constitués de 172 personnes et 76 représentations musicales. En outre, il y aura des spectacles de théâtre et projections de films. Le festival Europalia sera ouvert par le président Joko Widodo et le roi Philippe à Bruxelles le 10 octobre 2017. La conférence nationale de travail de l'Association des journalistes indonésiens au PWI mardi à Ambon, les Moluques, se concentrer sur l'amélioration de la réglementation de PWI. La conférence nationale de travail de PWI est tenue dans le cadre de la Journée nationale de la presse 2017. Le secrétaire général de PWI, M. Henry Bangun, a déclaré dans son discours que certains efforts d'amélioration étaient, entre autres, les tentatives d'élaboration de l'article de l'association et le règlement de PWI, la forme devrait être ratifiée lors du prochain congrès de PWI en 2018. Outre la formulation de l'article de l'association et des statuts, la Conférence nationale de travail de PWI mettra également l'accent sur l'amélioration de l'éthique journalistique. Selon Henry, c'est nécessaire pour répondre aux défis du développement de la civilisation et le développement des conditions sociales dans la communauté. Certaines améliorations apportées dans l'article de base et le règlement destiné à l'organisation de PWI peuvent anticiper les développements qui se sont produits depuis l'adoption de l'article de l'association et des statuts au congrès de Banjarmasin il y a 4 ans. En plus de l'article de l'association et les statuts, nous avons voulu améliorer le code d'éthique journalistique qui a développé parce qu'il y a des liens à la télévision en direct, comme le cas à Jakarta il y a quelque temps. Henry Bangun a déclaré qu'à la Conférence nationale de travail, ils discuteront du développement de nouveaux médias qui sont actuellement répandus dans diverses régions en Indonésie. Selon lui, cela est causé par le développement des nouveaux médias n'est pas couvert actuellement dans le règlement du code de conduite PWI qui existe déjà. Selon Henry Bangun, la Conférence nationale de travail est aussi serait capable de générer de l'amélioration dans un test de compétences des journalistes. Il a souligné l'importance d'incorporer le test du code de conduite dans le test de compétences des journalistes en Indonésie. Le président de l'Association des journalistes indonésiens, M. Margiono, a déclaré mardi à Ambon, les Moluques, que la Journée nationale de la presse était un moment important pour aider les régions en Indonésie à résoudre les problèmes qui existent dans chaque région. La mise en œuvre de la 69e Journée nationale de la presse à Ambon est le bon moment pour encourager la construction et le développement aux Moluques. Selon M. Margiono, la commémoration de la Journée nationale de la presse est toujours effectuée en construisant des collaborations avec divers partis pour apporter des innovations qui sont bénéfiques pour le progrès des Moluques.
Memang kita bawa program-program pemerintah untuk mengatasi persoalan.
Nous apportons le programme du gouvernement pour résoudre le problème régional. Comme par exemple dans les Moluques, quel problème aux Moluques? Comme par exemple les relations entre les îles. Nous apportons le ministère des Transports. Il veut réaliser l'autoroute de la mer inter-île, donner le bus, puis donner une assistance sous forme de navire transversant, ferry entre les îles, donner des galets de sauvetage par la pêche. Il y a aussi d'autres ministères. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales a porté la lumière du soleil pour la région qui n'a pas d'électricité. Certains ministères qui étaient présents dans la Journée nationale de la presse 2017, entre autres le ministère des Transports, le ministère du Tourisme, le ministère des Communications et Informatiques, le ministère de la Recherche et de la Technologie et de l'Enseignement supérieur, y compris des entreprises d'État en Indonésie. Margiono espère que la présence de la presse sera en mesure de combler les communautés dans les régions avec le gouvernement central afin de soutenir les programmes nationaux de développement dans la région. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Le ministre indonésien des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, au sein de sa visite de travail à Cape Town en Afrique du Sud, a promu le potentiel économique de l'Indonésie aux hommes d'affaires sud-africains. C'est ce qu'a affirmé la ministre Retno Marsudi, tout en donnant un discours lors du Forum des affaires indonésiens Afrique du Sud. La ministre Retno a déclaré aux hommes d'affaires sud-africains sur la réforme économique qui est en train d'être faite par le gouvernement indonésien. À cette fin, la ministre Retno a invité les hommes d'affaires sud-africains à venir commercer et investir en Indonésie, et plutôt le directeur de l'Afrique de la Direction générale pour l'Asie-Pacifique, Afrique, du ministère des Affaires étrangères, M. Daniel Tumpal Simanjuntak, a déclaré que le gouvernement indonésien en 2017 prioriserait la coopération avec les pays de la région africaine. Afin d'améliorer la coopération entre l'Indonésie et l'Afrique, la ministre des Affaires étrangères, Mme Retno Marsudi, a visité Cape Town en Afrique du Sud le 6 et 7 février et rencontré le ministre des Affaires étrangères et le président de l'Afrique du Sud. Le ministre Retno continue également sa visite bilatérale au Mozambique le 7 et 8 février. Il a visité l'Afrique du Sud en apportant des représentants de certaines entreprises appartenant à l'État, ainsi que des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie, ou CADIN, de l'Indonésie. Le tourisme maritime devrait contribuer à 4 milliards de dollars américains en 2019, soit une augmentation jusqu'à 4 fois de la contribution qui existe à l'heure actuelle. Cela a été déclaré par le ministre du Tourisme, M. Arif Yahya, dans la signature de la coopération du développement du tourisme maritime entre le ministère des Affaires étrangères, maritimes et de la pêche avec le ministère du Tourisme à Jakarta, mardi. Il a dit que le tourisme maritime contribue actuellement seulement environ 10% du tourisme national qui atteint 10 milliards de dollars américains par an. Ainsi, la contribution du tourisme maritime est seulement d'environ 1 milliard de dollars américains. Arif Yahya a déclaré la question dans ce sous-secteur se concentrer sur la réglementation, les ressources humaines et l'approche priorisant la sécurité. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous dans une rubrique quotidienne, le magazine culturel. Pour l'édition d'aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Java Central. Alors restez toujours avec nous, la Voix d'Indonésie, le service international de RRI. Outre par les zones courtes, vous pouvez également écouter nos émissions sur www.ve.ca.id. Chers auditeurs, le mot de Kampung Kurcaci signifie « village neng » et peut être de son nom. Vous imaginez une petite maison avec de petites personnes vivant dedans. Mais cela est différent avec Kampung Kurcaci ou le hameau neng dans la résidence de Purbalingga en province de Java Central. Cette attraction touristique est située dans la région de la forêt des arbres de résine qui ont été plantés depuis 1952. À cause de cela, n'importe quelle personne qui vient à cet endroit se sent petit comme jeune homme. Chers auditeurs, le nom du Kampung Kurcaci ou village Neng vient d'une philosophie indonésienne. Cette philosophie stipule que les humains sont des créateurs qui sont plus petits que la nature. Pour cette raison, les humains ne devraient pas être arrogants. Selon la population locale, l'origine de l'émergence de Kampung Kurcaci ou village Neng a commencé lorsque les jeunes hommes locaux se sont joints à l'institution de la communauté du village forestière pour construire une école de la nature dans la zone boisée. À l'école, il y a une petite maison qui ressemble à une maison de jeunes hommes. Enfin, il y a l'idée de créer un village de jeunes hommes pour devenir une attraction touristique. Ils ont coopéré plus tard avec Perhutani, les propriétaires foncières, pour réaliser l'attraction touristique de Kampung Kurcaci. Chers auditeurs, Kampung Kurcaci ou le village Neng est situé au pied du Mont Slamet qui a une hauteur de 3428 mètres au-dessus du niveau de la mer. Plus précisément, ce site touristique Kurcaci est sur la rue Brobahan, le village de Serang, sous-district de Karangreja dans la résidence de Purbalingga en province de Java Central. Pour atteindre ce site touristique du centre-ville de Purwokerto à Kampung Kurcaci, on prend 2 heures en moto. En arrivant à Kampung Kurcaci ou au village Neng, de l'entrée principale, les touristes entrent en parcourant un chemin environ 500 mètres. À environ 3,5 hectares de terre, il existe différents types d'attractions tels que le terrain de camping, outbound, la maison Neng, maison de l'arbre, une petite bibliothèque et une cascade. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Kampung Kurcaci ». Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Apprendre l'indonésien qui vous introduit le vocabulaire indonésien et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est di terminal bis, je répète, di terminal bis, en français, à la gare de bus. Chers amis, comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer 2 fois et vous le répétez après moi. Terminal bis. Terminal bis. En français, la gare du bus. Berangkat. Berangkat. En français, partir. Jam berapa? Jam berapa? En français, à quelle heure? Sudah berangkat. Sudah berangkat. En français, déjà parti. Jam 5. En français, à 5 heures. Saya terlambat. En français, je suis en retard. Tetapi. En français, mais. Bisa. En français, pouvoir. Naik bis lain. En français, prendre d'autres bus. Bien, maintenant, on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation entre Danu A et Imam B à la poste. A. Permisi pas. En français. Excusez-moi, monsieur. B. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Ya, ada yang bisa saya bantu? En français, oui. Qu'est-ce qu'il y a? A. Bis ke Bandung berangkat jam berapa? Bis ke Bandung berangkat jam berapa? En français, savez-vous à quelle heure le bus pour Bandung part? B. Ke Bandung sudah berangkat jam 5 tadi. Ke Bandung sudah berangkat jam 5 tadi. En français, Bandung, il est déjà parti à 5 heures. Wah, saya terlambat. En français, mon Dieu, je suis en retard. B. Ya, tetapi Anda bisa naik bis yang lain. Ya, tetapi Anda bisa naik bis yang lain. En français, oui, mais vous pouvez prendre d'autres bus. A. Baiklah, saya akan naik bis lain saja. Terima kasih, Pak. Baiklah, saya akan naik bis lain saja. Terima kasih, Pak. En français, d'accord, je vais prendre d'autres bus. Merci beaucoup, monsieur. Chers amis, voilà l'édition de Apprendre l'Indonésie pour aujourd'hui. Merci beaucoup de votre fidélité et à bientôt.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis de la Voix d'Indonésie dans le monde entier. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie. Voici le programme musical. Pour cette édition, je présenterai des chansons du groupe de musique Airplay. Et chers amis, vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 925 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Chers amis, Airplay Band a été formé le 12 mai 2013, se composait de Irene comme guitariste, Randy bassiste, Pika chanteur, et Harry, guitariste. Les quatre hommes sont d'accord de soutenir leur musique. Harry a décidé de sortir et a été remplacé par Félix comme batteur. Bon, voici la première chanson intitulée « M'a enseigné », chantée par Airplay Band.
Kau hancurkan hati ini.
Merci d'écouter la voix de l'Ironisie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, vous êtes en train d'écouter des chansons pop chantées par Air Play Band. Ce groupe de musique avait participé à la compétition de band nationale organisée par une entreprise de fast-food indonésien. Le premier single intitulé « Parler d'amour » existe dans l'album de compilation et ce groupe offre un concept musical différent des autres groupes avec la nuance moderne pop-rock. Bon, chers amis, écoutons maintenant d'autres chansons intitulées « Parler d'amour » chantées par Airplay Band.
Juga cintaimu
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée « Parler d'amour » chantée par El Playband. Le premier album de ce groupe a été distribué par Red Music Indonesia en coopération avec Spica Production. Cet album est emballé avec des nuances de frais, avec le premier single intitulé « Dong Selomong Tua ». Ce groupe de musique espère leur chanson peut être acceptée par tous les amateurs de musique indonésienne. Bon, chers amis, écoutez maintenant les deux dernières chansons intitulées « Non seulement toi » et « Je t'aime ». Tous les deux sont chantés par groupe de musique Airplay. Merci à tous et à bientôt.
Vous êtes toujours avec la voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Besarnya.
c'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.